Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Elles font souvent partie de notre quotidien sans que l'on s'en rende compte toujours. En ville, on finit même par les oublier, mais à la campagne, dans un village, cela reste plus difficile. Les cloches, puisqu'il s'agit d'elles, rythment notre temps et font partie de notre patrimoine culturel. Mais les cloches ne sont-elles pas plus que cela, des tintements réguliers, plus ou moins discrets, qui nous invitent à nous tourner vers Dieu, à écouter et lever les yeux vers le ciel? Cloche et carillon, ces mélodies du ciel, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, pour nous parler de ce thème, pour nous parler d'art campanaire, comme on dit. Alain Jouffray, vous êtes musicologue, spécialiste de l'art campanaire. Vous êtes un ancien expert auprès de l'UNESCO sur ces sujets et fondateur du Musée européen d'art campanaire de l'Île Jourdain. Bonjour. Jean-Yves Mélinger, vous êtes président de l'association des Amis de la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marc Espitalier, vous êtes carillonneur à Lagarde dans le Lauragais, bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Très heureux ce matin de faire cette émission sur les cloches et carillons et l'art campanaire. Voilà, c'est une émission, on va dire, originale. Ça fait partie des joies de ce métier que de découvrir ces trésors culturels et spirituels. Tout cela a été motivé, il faut le dire, par rénovation du carillon,
oui.
C'est ça, hein?
Oui, oui.
Jean-Yves Mélinger, donc, du carillon de la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. C'est tout un symbole, peut-être aussi, pour les carillons dans le sud-ouest et en pays d'Oc. L'inauguration aura lieu donc le samedi 21 septembre à 18h en présence de Monseigneur Le Gall. Bénédiction d'une plaque commémorative, on y reviendra. Allez, on va commencer, puisque Alain Jouffray est un grand spécialiste de l'art campanaire. Je vais vous poser une colle, on va écouter une cloche et vous allez me dire qui est cette cloche. Voilà, alors rassurez-vous, hein, si vous ne répondez pas, vous restez quand même à l'antenne. Mais est-ce que par hasard, vous l'avez reconnue?
Non. Il y en a tellement qui font plus de 5 tonnes que je ne peux pas.
Voilà, elle fait plus de 5 tonnes en effet. Donc il s'agit donc de François Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus, donc la plus grosse cloche de France, je le dis comme un clin d'œil auprès des auditeurs. Hein. Donc c'est
Savoyard.
C'est la Savoyarde aussi, située dans le beffroi de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, 18 835 kilos. Avant qu'on en vienne un petit peu comme ça aux particularités, aux choses qui peuvent faire sourire, l'art campanaire ne date pas d'hier. J'aimerais qu'on commence par faire un tout petit peu d'histoire. Est-ce qu'on sait de quand datent les premières cloches, Alain Jouffray?
Alors, ça dépend si on se place au niveau de la planète ou si on se place uniquement au niveau de notre Europe et de notre Église chrétienne. Parce que les premières cloches étaient en terre, il faut partir dans l'Anatolie avec les potiers. Donc là, on est 4000 ans avant Jésus-Christ, parce que des bols en terre, ça sonne quand on les frappe. Il y a d'ailleurs des carillons en terre ou en porcelaine qui existent encore de nos jours. Et puis ensuite, le bronze, l'époque du bronze est partie à la fois à droite et à gauche. À droite, en partant vers la Chine, et à gauche, en partant vers l'Europe. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'âge du bronze chinois et l'âge du bronze scandinave, c'est-à-dire le dernier en Europe, il y a quand même 2000 ans d'écart. Vous voyez, donc c'est tout à fait différent. Par contre, pour ce qui est de notre Église chrétienne, si vous voulez, les cloches vont arriver à partir du moment où l'Église chrétienne va cesser d'être persécutée ou d'être clandestine. C'est-à-dire que quand Constantin Ier, en 313, autorise l'Église chrétienne, eh bien les chrétiens vont chercher un signum, ce sera d'ailleurs le premier nom de la cloche, un signal, disons, qui deviendra après signe, parce qu'il y a un jeu sur le mot, signal et signe, qui résume bien la cloche, pour pouvoir appeler aux réunions, appeler aux offices, et ils auront un peu plus de 50 ans pour se mettre d'accord, jusqu'à ce que Théodose, en 380, décrète que l'Église chrétienne est l'Église d'État, et la religion d'État. Donc, pendant cette période-là, si vous voulez, les chrétiens ont cherché quel serait le signal qui identifierait l'Église chrétienne, et ils ont trouvé
des
sortes de casques en bronze qui existent existait et qui sonnait pour l'ouverture et la fermeture des marchés, des bains, des réunions publiques dans la Rome antique.
Alors on y reviendra peut-être sur l'histoire des cloches, parce qu'après aussi au Moyen-Âge, c'est donc de même que la France s'est couverte d'un manteau blanc d'église, la France s'est couverte aussi probablement d'un manteau de bronze des cloches. Juste quelques éléments d'actualité pour montrer que les cloches sont quand même dans l'air du temps, on va dire entre patrimoine et interrogation spirituelle. J'ai trouvé deux articles. Alors c'est pareil, ça peut paraître anecdotique, mais bon, c'est dans l'actu. Le journal La Dépêche, c'était en juillet dernier. Un maire du Gard, alors c'est pas tout à fait notre région, sauf erreur de ma part, mais peu importe, c'est dans le coin. Un maire du Gard a mis un panneau à l'entrée de son église, attention village, indiquant ici nous avons des cloches qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent très tôt, des troupeaux qui vivent à proximité. Certains ont même des cloches autour du cou, des agriculteurs qui travaillent pour vous donner à manger, laissant entendre que ça fait partie du patrimoine et qu'il était hors de question d'arrêter de faire sonner les cloches, même si ça réveille tôt les touristes. J'en ai trouvé une autre qui peut plus poser question. Beaucoup de Français sont sensibles à, on va dire, à la méditation de pleine conscience et autres. Et là aussi, il y a une forme, il y a des cloches pour rappeler, on va dire, les gens au présent. Est-ce que les cloches sont, on va dire, le symbole de ce patrimoine en France à la frontière du culturel et du spirituel, Alain Jouffray?
Enfin, la cloche qui a commencé par être signal, donc qui était collectif, donc qui avait un rôle social, parce que c'était un signal, est devenue cultuelle parce qu'elle a été prise par la religion, et elle est devenue en effet un symbole éminemment précis et présent de la religion chrétienne, et ensuite elle est devenue culturelle parce que du simple signal au message religieux, elle est devenue instrument de musique.
Alors, que dirait le carillonneur que vous êtes, Jean-Marc Espitalier? Est-ce que quand vous jouez, vous avez l'impression d'être aux frontières du culturel et du spirituel?
Ah oui, exactement. Oui. C'est un instrument aérien, un grand piano aérien, sur lequel on joue à la fois des cantiques, la liturgie, etc., comme des airs profanes qui rythmeront la vie.
Quand vous dites aérien, c'est parce que vous êtes en hauteur aussi, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un grand piano aérien.
Donc ouais, quand vous jouez, vous avez l'impression que vous réjouissez, on va dire aussi, de manière culturelle les gens, mais aussi que c'est une forme d'appel aussi quand même à la méditation, à la prière.
Tout à fait, puisque la plupart quand même des mélodies jouées sont religieuses, mais il y a aussi les airs profanes qui vont rythmer la population, voilà.
Alain Jouffray, des choses peut-être basiques une fois de plus pour vous, donc l'art campanaire est toute une science. Et alors il y a deux trois choses à savoir. Il reste des fondeurs de cloches en France. J'ai vu qu'il y en avait encore trois. Comment on fait une cloche? Est-ce qu'il y a, on va dire, un alliage type pour la fonte des cloches?
Oui, bien sûr. C'est au fur et à mesure du temps et des découvertes empiriques que les fondeurs ont amélioré la qualité de l'airain, puisque c'est le nom de cet alliage, le bronze, mais le bronze sonore, et on arrive maintenant très précisément à 78% de cuivre et 22% d'étain.
Voilà, c'est la formule, on va dire, pour toutes les cloches.
Oui, toujours pareil, pour toutes les cloches occidentales. Parce que il y a quelque chose sur lequel il faut vraiment insister, c'est que ce n'est pas le fruit du hasard qui a donné la forme des cloches et qui a donné le son des cloches. C'est la volonté, si vous me permettez cette expression, des clients qui ont demandé aux fondeurs de fabriquer un instrument qui réponde à leur attente ou à leur demande. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous prenez une cloche bouddhique, si je caricature, elle va ressembler à une sorte de grande bouteille de butagaz, alors que si on prend une cloche chrétienne, elle va ressembler à un pot de fleurs renversé. Pourquoi? Parce que l'alliage de chacune de ces cloches est tout à fait différent, parce que le son est tout à fait différent. La cloche chrétienne a pour mission première d'envoyer le plus loin possible et le plus vite possible le message « il est ressuscité ». Ça, c'est depuis le 5e siècle. Donc on frappe la cloche chrétienne, le son part très vite et va très loin. Quand on frappe une cloche bouddhique, le son va très lentement, mais très loin, mais pas très loin pour couvrir la terre, parce que c'est la réflexion pour rentrer en introspection sur soi-même et le son se replie sur lui-même. Donc les fondeurs, si vous voulez, ont cherché l'équilibre d'alliage qui permette de répondre à cette demande.
Extraordinaire, hein. Je vois qu'on opine du chef en plateau, preuve qu'on en découvre peut-être tous autour du plateau. Il y a autre chose à savoir, je citais tout à l'heure donc la grande cloche, la Savoyarde, en haut du beffroi du Sacré-Cœur, donc la plus grande cloche de France, presque 19 tonnes. Elle a un nom de baptême, François-Marguerite du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai même vu que les noms de baptême des cloches finissaient dans les registres paroissiaux. Expliquez-nous ce qui peut paraître de prime abord soit une tradition culturelle étonnante, soit un peu saugrenue même pour les chrétiens.
Alors, il faut remonter là encore dans le temps pour se rappeler qu'il y avait une tradition très très forte qui consistait, parce que c'était une époque où on mourait beaucoup, où il fallait trouver des couples de substitution ou de remplacement par rapport à un enfant si jamais il venait à perdre ses parents. Et c'est ce qui a donné naissance à la coutume du parrainage et du marrainage. Et quand un couple était fabriqué par l'Église pour prendre en charge, si jamais les parents décédaient, le petit enfant, il faisait ce serment, c'est-à-dire qu'il disait qu'il s'engageait à faire ça, et il le faisait sous la cloche de l'élévation, et à l'époque, je vous parle au Moyen-Âge, la cloche d'élévation, donc la corde descendait devant l'autel, c'est ce qui était la tradition, et on liait cet homme et cette femme par la corde de la cloche, symbole qu'ils étaient le couple de substitution. Et de cette tradition extrêmement forte symboliquement est née l'idée que puisque c'était sous la cloche pouvait elle aussi avoir un parrain et une marraine, et c'était très pratique parce que bien sûr le parrain et la marraine c'était les bailleurs de fonds qui allaient aider à faire couler la cloche.
Dites donc, on vous entend un pointillé, par moment, donc on vous rappellera à la pause, on espère que ça va tenir jusqu'à la pause. À propos des cloches, alors beaucoup de choses à dire. Oui, les fondeurs, vous pouvez nous dire un petit peu, donc il y a trois fondeurs en France encore de cloches. Comment on fond une cloche, par exemple, quand elle fait, alors peut-être pas que pour la Savoyarde, mais on a des moules géants, petits, de différentes tailles en fonction de la note à donner.
Mais bien sûr. Parce que c'est la taille de la cloche, sa largeur, disons, et sa hauteur donne la note. Alors il y a un vieux proverbe français qui dit surpris comme un fondeur de cloche, parce que quand le fondeur démoulait, il n'était jamais sûr que la note soit tout à fait exacte, et de là est venue l'idée d'enlever un peu de métal à l'intérieur pour pouvoir accorder, entre guillemets, comme on accorde un piano en tirant sur les cordes, accorder la cloche. Et puis maintenant, avec les progrès techniques, avec le diapason électronique, on arrive à une précision. Et en effet, comme disait Monsieur Spitalier, maintenant c'est un grand instrument, c'est un grand piano ou un grand orgue aérien. Donc maintenant, les notes sont parfaitement justes. Donc c'est une technique, ce qu'on appelle la technique à double moulage. Les Chinois pratiquent la technique au quadruple moulage, ce qui est très compliqué, mais le double moulage, c'est-à-dire on fabrique un noyau, un noyau, sur ce noyau, on fabrique ce qu'on va appeler la fausse cloche, qui aura exactement l'épaisseur, la taille de la cloche finale, sur lequel, avec la technique de la cire perdue, on va poser des empreintes ou des décors en cire, puis on va badigeonner d'abord du sable extrêmement fin, puis de plus en plus épais pour arriver à une argile qui sera très costaud et qui sera renforcée par du chanvre, comme on pourrait faire une coque de canoë-kayak en plastique, disons, et ce qui s'appelle la chape. On va enfermer cette chape dans un corset en fer pour résister aux pressions du métal. On va lever le corset en fer et la chape, et là on va casser, on va briser la fausse cloche. Et on va redescendre cette chape sur le noyau, et bien sûr, entre le noyau et la chape, il y a un intervalle, il y a du vide. La cloche, c'est ça la magie, d'ailleurs, la cloche est déjà là dans ce vide, elle existe déjà dans ce vide, et c'est dans ce vide qu'on va couler très rapidement le bronze, très rapidement, parce qu'il faut éviter le piège à son, vraiment, pour la cloche, c'est-à-dire les bulles d'air.
Alors il y a aussi des langages des cloches, on y reviendra. Les cloches, on va dire, sont sonnées pour de multiples raisons. Les offices religieux, l'Angélus aussi, donc Angélus chrétien, prière chrétienne. Le glas aussi, qui annonce les décès. J'ai vu aussi qu'il y avait les sonneries du couvre-feu qui pouvaient être célébrées. L'alerte, c'est aussi ce qu'on appelle le tosquin, bref, de multiples choses, on y reviendra. J'aime j'aimerais, avant qu'on fasse une première pause, Alain Jouffret, que vous nous disiez un mot de la grande tradition des carillons, et peut-être Jean-Marc Espitalier vous compléterez. Beaucoup d'auditeurs ne le savent peut-être pas. Souvent, les carillons, on imagine que ça vient du nord de la France, mais on va dire le pays peut-être par excellence des carillons, c'est en fond, au fait, le sud-ouest et plus largement le Pays d'Oc, Alain Jouffret.
Parce que c'est vrai que quand on parle de carillon, maintenant, on pense vraiment le grand instrument d'expression, c'est-à-dire avec comme un piano, avec les touches blanches et les touches noires et les demi-tons qui permet de jouer toute la musique. Mais au départ, alors je repars toujours dans l'histoire, au départ, les églises avaient des cloches devant le parvis. Hein, le clocher n'existait pas. Il faudra l'an 768. Pour que le pape Étienne III fasse ériger le premier clocher à Latran, à Rome, pour d'ailleurs faire face au minaret du Médecine. Donc face opposition à la voix du Médecine, donc c'est la voix des cloches, et c'est comme ça qu'elles montent. Et à partir du moment où elles vont monter, dans une tour, on va commencer par avoir des trois cloches pour le symbole de la Trinité. Et puis, on s'est aperçu qu'avec une quatrième cloche, on pouvait augmenter considérablement le nombre de frappes et de mélodies, entre guillemets, déjà avec quatre notes. Et puis, on a eu un accroissement progressif du nombre de cloches. Et c'est vrai qu'à partir du moment où un clocher a quatre cloches, il a un quadrennion, donc il a un carillon. Et de là est venue, et surtout en effet dans le sud-ouest, l'idée qu'avec un instrument, petit instrument d'expression d'un octave, par exemple, d'une octave, huit cloches, eh bien, on pouvait à la fois faire les appels religieux, on pouvait à la fois jouer de la mélodie, on en parlera peut-être, d'où les traditions de Noël, des nadalettes, etc., et ensuite, on pouvait converser, c'est-à-dire on pouvait délivrer des messages. Et le sud-ouest, le grand sud-ouest, c'est-à-dire toute l'Occitanie maintenant, la région occitane, avait cette particularité d'avoir des petits carillons jusqu'à 12 cloches, n'est-ce pas, qui permettaient justement ce côté culturel et social.
Alors on va écouter, avant de faire une première pause justement, l'un de ces carillons à cloche en volée tournante. On en parlera après une pause musicale, et c'est justement dans votre pays, si je ne me trompe pas, à l'église Saint-Rémy de Lagarde en Lauragais. Allez, on fait une première pause. C'est bien chez vous, Jean-Marc Espitalien. Oui. Vous reconnaissez, hein?
Tout à fait.
Voilà, alors vous restez avec nous. On fait une première pause musicale. C'est pas une pause avec des cloches, mais rendez-vous est donné pour d'autres extraits sonores après ce court intermède musical.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Cloche et carillon, ces mélodies du ciel, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Alain Jouffray, musicologue, spécialiste de l'art campanaire, fondateur du musée européen d'art campanaire de l'île Jourdain, Cocorico dans le Gers. Chez nous, Jean-Marc Espitalier, vous êtes carillonneur à Lagarde dans le Lauragais, et Jean-Yves Mélinger, président de l'association des Amis de la cathédrale Saint-Étienne. Je le redis, puisque j'ai oublié de le dire avant la pause musicale, cette émission qui a été motivée par la prochaine inauguration le 21 septembre prochain du carillon de la cathédrale Saint-Étienne. On y reviendra avec vous, ça sera à 18h en présence de Monseigneur Le Gall. On y reviendra avec vous, Jean-Yves Mélinger. Mais j'aimerais qu'on reste un petit peu sur le sud-ouest. Allez, on va se refaire plaisir, on va commencer par réécouter ce carillon de l'église Saint-Rémy de Lagarde dans l'Auragais, qui est donc votre carillon. Alors c'est pas vraiment le carillon, c'est les cloches en volée tournante. Vous allez nous expliquer après la différence. On écoute tout de suite. Voilà, j'allais dire quelle pêche, hein, ça fouette ces cloches. Alors en effet, c'est pas un carillon, c'est les volées tournantes. C'est une des particularités donc du sud-ouest. Expliquez-nous ce que sont ces cloches en volées tournantes de votre église, Jean-Marc Espitalier.
Les cloches en volées tournantes sont, il faut rappeler, c'est une tradition très implantée dans le sud-ouest, en Espagne et en Provence.
Et ça va bien avec le caractère des Espagnols ou des gens du sud-ouest. Hein,
c'est... Exactement. Et tous ces volets tournants sont manuels. Bon, certains ont été électrifiés récemment. Mais elles sont manuelles et c'est l'apanage culturel essentiel de nos sonneries.
Alors comment ça se passe en fait? C'est des cloches qui peuvent tourner sur elles-mêmes, c'est ça?
Ouais, l'axe de sonnerie est en rétro-lancé. Et l'image même de la plus belle volée tournante au niveau visuel, puisque nous avons un patrimoine campanaire visuel que tout le monde peut voir, puisque nous n'avons que des clochers murs, en particulier dans la région.
Alors des clochers murs, donc il faut expliquer, c'est un mur, un clocher en forme de mur, et puis il y a un certain nombre de cloches.
Les cloches sont visuellement accessibles à tout le monde. Ces clochers murs sont affublés de balcons sur lesquels les sonneurs montent. On détache les cloches, puis elles sont toujours bridées en temps ordinaire. Et on détache les bâtons, les jougs, et on les met en mouvement.
On se met un casque sur les oreilles quand même avant.
Oui,
hein.
Ouais, on se met des casques.
Faut pas se les prendre dans la figure, hein. C'est très impressionnant,
c'est très
vraiment, de les voir lancer les cloches comme ça. Hein,
et donc tous les hommes du village montent pour faire tourner les cloches. Et c'est l'apanage vraiment des jeunes, des hommes, etc. Et c'est un exercice sportif et spectaculaire.
Alors qu'est-ce que ça dit? Je sais pas quelle est. C'est juste qu'on a trouvé une astuce et on s'est dit que ça allait faire des belles mélodies. Ou est-ce que ça a une autre signification, ces cloches en volée tournante?
Non, pas du tout. C'était on ne concevait pas ici dans le midi autre chose qu'une volée tournante pour les fêtes. Point. En dehors de ce temps-là, les cloches sont sonnées en tintement. Jamais un volet. La volée balancée complètement inconnue. La volée balancée est apparue lors des électrifications des années 60, etc. aux grandes dames de la population. Parce que les gens n'ont pas compris au départ, ils ont vu balancer des cloches dans certaines communes.
Ils ont dû trouver ça bien maussade, par exemple.
Elles ne sonnent pas normalement. Or, l'emploi du terme volée normale, c'est un emploi correspondant au centralisme parisien, enfin au centralisme français, qui impose au contraire dans l'installation d'une sonnerie électrifiée une volée balancée. Bien, ceci étant dit, l'image même de la volée tournante, de la cloche en volée tournante, la plus belle qu'il y ait, c'est le fondeur Louison, l'évêque Amance le Vinel, par succession, toulousain, qui a créé la demoiselle de Louison. Il a créé un système parfait de rotation, à savoir, vous verrez toutes les cloches dans le pays toulousain avec une tête, un corps, deux bras et la robe, et un seul pied. Et c'est une rotation hyper facile et qui n'ébranle pas les clochers.
Alain Jouffret, juste cette tradition, pourquoi est-elle née dans le Sud-Ouest ? C'est pur hasard ou c'est qu'on a voulu donner plus de rythme aux sonneries des cloches ? Alain Jouffret.
Il y a plein de théories qui courent sur la naissance des volées tournantes, mais il faut toujours penser que la cloche parle la langue du pays. Et ça, c'est très important, on peut le voir au niveau européen, les cloches en Hongrie ne sonnent pas comme elles sonnent dans le Piémont en Italie, ou comme elles sonnent justement en Catalogne ou chez nous. Et donc, il faut toujours entendre le chant de la langue du pays pour voir à quel point ce qu'on appelle le mimotisme, la cloche parle cette langue-là. Et c'est vrai que ce soit, là, vous m'appelez dans le Tarn, donc c'est vrai que l'accent rocailleux du Tarn correspond bien avec la volée tournante et avec ce battant qui retombe dans la cloche, alors que le chuintement nordique correspond mieux, si vous voulez, au son des cloches que souvent même on enferme dans des caissons en bois pour que ça soit lié et qu'il n'y ait pas d'aspérité à la voix. Donc il faut toujours penser que la cloche parle vraiment la langue du pays. C'est pour ça que la population, souvent quand on change la tradition de sonnerie ou quand on lui change les cloches, ne reconnaît pas sa voix, donc ne reconnaît pas l'identité de campanaire qui était la sienne.
Eh ben dites-moi, je sais pas à quoi doit ressembler la sonnerie des cloches en Sibérie orientale, mais ça vaudrait le coup de peut-être d'un jour de faire une émission sur les cloches à travers le monde. On va écouter un autre extrait sonore. Alors c'est pris dans la rue, donc on entend aussi des voix et même des enfants, je crois. Et on va parler juste après cet extrait des 7 sonneries traditionnelles de Toulouse. Voilà pour l'extrait sonore. Jean-Marc Espitalier, ai-je correctement choisi ?
Oui.
Et parlez-nous de ces sonneries traditionnelles de Toulouse.
Voilà, ça, nous voulons entendre les sonneries typiques de notre région, qui entêtement, je dis bien entêtement, puisque tout à l'heure on a parlé des volées tournantes, c'est exceptionnel. Elles ne correspondent qu'aux grandes fêtes, patronales, Noël, etc. Ce que nous voulons entendre, c'est la sonnerie typique de tous les Angélus, toutes les messes, c'est-à-dire c'est vraiment un langage qui correspond à un appel pour le peuple, de tout un tas de codifications, etc. Alors la première, c'est
ça voulait dire que ces sonneries traditionnelles de Toulouse, c'est pas juste des mélodies qu'on joue comme ça de temps en temps pour les grandes fêtes.
Non.
C'est une manière d'appeler pour tous les rendez-vous liturgiques qui est propre au Sud-Ouest ou à Toulouse, c'est ça ?
Ce qu'on vient d'entendre, c'est le quotidien, voilà.
D'accord.
Et tout à l'heure, c'est l'exceptionnel. La volée, elle est réservée au...
Donc un appel à la messe à Toulouse, en fait, si on est attentif, ça ressemble à ça, c'est...
Ah, ça devrait, oui, sauf l'électrification sauvage, bon, ça c'est autre chose. Mais tout appel, Angélus, messe, etc., se fait intentement.
Alors, d'où cela vient-il ?
Codification très précise.
D'où cela vient-il ? D'où viennent ces sonneries traditionnelles toulousaines ? J'ai cru comprendre que ça remontait à loin. On parle même, on parle même que du martyr de Saint-Saturnin et de sonneries de cloches qui auraient été composées après cette époque.
Alors Toulouse a cette originalité d'avoir plusieurs types de sonneries qui recréent le martyr de Saint-Saturnin. C'est-à-dire qu'à chaque sonnerie, on reconnaît diverses phases du martyr, avec les arrêts,
il y a pas que vous
du Capitole, de l'ancien Capitole de Toulouse, l'arrivée devant l'église du Thor qui correspond au décès de Saint-Saturnin, puis etc. Enfin bon, il y a tout un...
Après, il a été traîné par un taureau jusqu'à la gare Matabio, dit-on.
Tout à fait, ouais.
Et alors, il n'y a que vous qui reconnaissez quand même peut-être le...
Tous les vieux Toulousains
le récit.
Connaissaient, ouais.
Ah oui. Bon, d'accord, tous les vieux Toulousains savent reconnaître ce langage.
Mais bon, bien sûr, ça se perd.
Les choses se perdent, hein. C'est...
Par contre, dans les villages, ça n'est pas perdu.
C'est-à-dire que c'est une tradition toulousaine, mais c'est aussi une tradition du Sud-Ouest, et c'est
sonnerie toulousaine. Pas le martyr de Saint-Saturnin, non, mais les codifications partentement, comme ce qu'on vient d'entendre, sont très parlantes, et une personne rurale sait d'emblée ce que l'on sonne. Voilà.
Je vois le temps qui passe. On va écouter un autre extrait. Cette fois, donc, c'est les Nadalés. Et puis, on va reparler de ces traditions du sud-ouest, les Nadalés. C'est donc, qu'est-ce que ça signifie, Nadalet?
Nadalet, Petit Noël, c'est-à-dire Nadal en occitan, Noël, de Nadalet, Petit Noël. Il se joue du 13 au 24 décembre, une heure chaque soir, après l'Angélus, et une heure de carillon, que de chants de Noël.
Voilà, pour le plus grand bonheur des riverains.
Voilà.
Ah, ils sont forts en plateau. Hein. Jean-Marc Espitalier a même reconnu d'où c'était. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là?
On vient d'entendre l'appel, c'est-à-dire... Ils mettent toutes les cloches en branle, la castre, à Notre-Dame de la Platée, pour appeler toute la ville à écouter ensuite le Nadalet.
Ah d'accord, mince.
Parce qu'une fois l'appel lancé, volé, balancé, là par contre, elles sont en balancement. L'appel étant terminé, on va jouer le premier soir, il ne les sonne que du 13... Peu importe les dates,
racontez-nous voilà. Surtout ce que
ils sonnent, mettons,
ce que ça signifie.
7 fois, 7 jours avant, ils vont sonner 7 fois « Venez divin Messie » le premier jour, puis 6 fois, puis 5 fois, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1.
D'accord, on fait monter le suspense, oui.
Voilà. Dans de l'ouragais, etc., c'est du 13 au 24, on va jouer 13, 14, etc. À partir du moment où on a joué ce second appel avec « Venez divin Messie » joué X fois, on va commencer des airs de Noël, alors là, en vrac, alors là, et le but est de ne pas rejouer le même Noël chaque soir.
Et le but est certainement aussi d'introduire...
Donc, un gros paquet de...
D'introduire à l'avant et puis au mystère de Noël. Alain Jouffray, quelques mots complémentaires sur ces traditions du Sud-Ouest, cette sonnerie traditionnelle de Toulouse, Nadalet, même on dit. Racontez-nous, est-ce que vous avez d'autres choses à nous apprendre?
Non, il y a deux. Alors maintenant, parce que vous savez, l'histoire est un roman, on n'y réussit que par l'imagination, disait Anatole France. Et donc maintenant, on adapte les choses et on réunit en une seule sonnerie qu'on appelle les Nadalettes deux techniques de sonnerie avant qui étaient courantes dans toute l'Occitanie, c'est-à-dire les Nadalettes, les Petits Noëls, et los aubetos, les aubettes. Et la Saobeto, c'était ça. Les enfants d'un village, c'était vraiment le monde rural, les enfants d'un village étaient réunis par monsieur le curé et choisissaient le morceau de l'année. C'était très symbolique. Ils choisissaient un morceau de l'année qu'on pouvait jouer sur le carillon et en effet, on entendait Noël arriver puisque chaque jour qui rapprochait de Noël, il y avait un morceau de moins. Et quand le morceau choisi par les enfants était plus que joué une fois tout seul, eh bien, Noël était arrivé. C'était très très beau. Et puis, ça, c'était les petites aubettes. Et puis, les petits Noël, c'était les Nadalettes, où là, ce sont comme les chants dans le nord de la France, comme les chorales qui chantaient Noël, eh bien, c'était les cloches qui chantaient Noël. Et c'est un concert qu'on entend à 18h tous les soirs. Et maintenant, la tradition, les deux traditions se sont fondu et comme me l'a dit Monsieur Espitalier, eh bien voilà, maintenant on a à la fois les aubettes et les petits Noël.
Alain Jouffray, vous avez donc fondé le Musée européen d'art campanaire de l'Île Jourdain. Pourquoi est-il important de pérenniser l'art campanaire? On peut se dire bon, l'art campanaire, c'est vraiment pour les, on va dire pour les spécialistes ou pour les mordus. Et que dit peut-être aussi le chrétien que vous êtes? On est quand même sur Radio Présence. Pourquoi est-ce que c'est important de perpétuer? J'ai cru comprendre que vous étiez battu aussi pendant de nombreuses années pour que dans le Pays d'Oc les cloches et les carillons soient remis de plus en plus à l'honneur.
Oui, parce que c'est quand même l'âme d'une communauté. Alors, communauté religieuse, c'est l'âme d'une collectivité laïque, et c'est un symbole. Alors, c'est vrai que lentement, peut-être, le symbole a perdu de sa force, mais l'outil reste toujours aussi fort, parce que c'est un instrument de musique. C'est un idiophone, c'est-à-dire dans la famille des instruments de musique, c'est-à-dire c'est l'instrument qui porte en lui sa propre résonance et qui a cette faculté spirituelle et symbolique d'appeler et d'éloigner. Et dans toutes les cultures, sur tous les continents, on trouve des idiophones et des instruments comme ça qui portent leur propre résonance et qui appellent et qui éloignent. Par exemple, on parlait du glas. Le glas, une de ses missions, c'était d'éloigner le mal, le diable, pour qu'il ne prenne pas l'âme avant que le corps ait retrouvé l'eau du baptême, du fidèle. Alors, cette cloche appelle. Appelle aussi à venir à la messe ou à se rassembler. Donc tous ces instruments appellent et éloignent, centripètent et centrifugent. Et ça, si vous voulez, cette chose-là a donné à la collectivité ou à la communauté le sens profond d'une appartenance et d'une identité.
Alors Geoffrey, n'est-ce pas aussi pour ça qu'on donne aussi un nom de baptême ? J'ai souvenir que les moines disent souvent que l'orgue dans une communauté, c'est comme un autre frère. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que les cloches sont comme quelqu'un au milieu de la communauté des croyants ?
Oui, c'est la personnalisation. C'est la personnalisation du signal sonore et avant on appelait les bon regardez on a parlé pour l'incendie de Notre-Dame de Paris les médias ont parlé d'Emmanuel. Emmanuel c'est le bourdon de Notre-Dame. Donc il y a une personnification de la cloche et ça fait plaisir au peuple, à la population d'avoir un lien presque familial avec les reins qui sonnent.
On va écouter, avant de faire une deuxième pause, un Adalé cette fois. Voilà, Rémi Souloumiac qui réalise l'émission a réussi à nous en trouver un. Jean-Marc Espitali, un petit commentaire avant la pause.
Tout le monde a reconnu Douce Nuit. Évidemment, ça fait partie du cheptel, du capital de chant que l'on peut jouer pour Noël. Mais il y en a des centaines. Des Noëls, il y en a des centaines. Et beaucoup de Noëls occitans. Et tout le monde reconnaît et chante dans la rue les Noëls.
Ouais. Allez, on fait une deuxième pause. Ça ne sera pas une pause avec des cloches. Mais on se retrouve tout de suite après cette pause pour parler un petit peu plus donc du carillon de la cathédrale Saint-Étienne. Je le redis pour ceux qui nous quitteraient maintenant. Inauguration samedi 21. Rendez-vous est donné à tous à 18h. Bénédiction d'une plaque commémorative en présence de Monseigneur Le Gall.
Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cloche et carillon, ces mélodies du ciel, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Pour ceux qui nous rejoindraient, Alain Jouffray, musicologue, spécialiste de l'art campanaire, fondateur du musée européen de l'art campanaire de l'île Jourdain, Jean-Marc Espitalier, carillonneur, et Jean-Yves Mélanger, président de l'association des amis de la cathédrale Saint-Étienne. Des carillons, il y en a beaucoup dans le sud-ouest, on l'a dit au long de cette émission. Quand on cherche, on trouve une liste, une longue liste, ne serait-ce qu'en Haute-Garonne. Et quand on cherche pour Toulouse aussi, on en trouve un nombre important. Dites-nous, avant qu'on voit un petit peu l'aventure qu'a été la restauration de ce carillon, ce qui va se passer, Jean-Yves Mélanger, le 21 septembre prochain.
Eh bien, le carillon, donc, qui était muet depuis 1962, a été rénové récemment. Et samedi, donc, nous avons
de la cathédrale Saint-Étienne, donc.
Nous avons décidé donc de la remise en fonction de ce carillon et de marquer ce moment par un événement qui nous semblera tout à fait beau pour notre cathédrale. Et donc, Monseigneur Robert Le Gall va venir bénir la plaque qui sera ensuite installée sur le beffroi du carillon.
Voilà, et tout le monde peut assister à ça.
Oui, cet événement est ouvert, hein, bien sûr. Il se situera sur le parvis de la cathédrale, côté du square Saliège. Et nous vous invitons bien sûr tous à venir nous retrouver, nous accompagner dans ce grand, grand moment.
Et à ce moment-là, il va ressonner, donc.
Oui,
il sonnera à quelle heure, peut-être?
Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons lancer une par une les cloches, hein, qui sont 5 cloches qui sont équipées en volet. Et ensuite, le carillon viendra rejoindre symboliquement ces 5 cloches. Hein. C'est une façon de signaler que il va être réaccueilli, hein, dans l'ensemble campanaire.
Vous avez donc, vous êtes donc à la tête de cette association, les amis donc de la cathédrale Saint-Étienne. Dites-moi un mot sur cette association et puis donc sur l'aventure de la restauration de ce carillon.
Alors l'histoire de l'association est complètement liée à l'ensemble campanaire de Saint-Étienne, puisqu'il a été, ses statuts ont été déposés le 6 janvier 1992. Et l'objet de cette association était de préparer et d'accompagner le 4e centenaire de la consécration de la cathédrale, qui a eu lieu le 30 août 1592 par le cardinal de Joyeuse. Et à l'époque, le premier président de l'association a été le père Raymond Palassin, qui était le curé de la cathédrale Saint-Étienne à cette époque.
Et dès le début, l'intention était de restaurer le carillon pour cet événement ou...
Non, à l'époque, il a été question donc d'installer deux cloches, qui s'appellent Marie et Cécile, qui sont toujours dans le clocher, et qui donc ont été installées le 21 septembre 1992, alors que le carillon va être remis en fonction le 21 septembre 2019,
Comment s'appellent les autres cloches de la cathédrale Saint-Étienne?
Alors il y a les cloches qui existent aujourd'hui, un bourdon, qui sont, alors toutes les cloches sont à voler balancer, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, il expliquait.
Mais leur nom de baptême, vous les connaissez
alors,
toutes?
Alors oui, il y a Étienne Florian, qui est le bourdon de la cathédrale, donc il porte le nom du saint patron de la cathédrale Saint-Étienne, et son deuxième prénom, Florian, parce que c'est le cardinal Després qui a donc décidé de la mise en place de ce bourdon. Voilà.
Le carillon,
il y a d'autres cloches, il y a quatre autres cloches, il y a la campanaire. Ensuite, il y a les deux cloches dont je parlais tout à l'heure, Marie-Cécile, et sur le haut du clocher, donc une cloche qui est apparente depuis la place Saint-Étienne, il y a Nicolas, qui est flanqué de deux plus petites cloches. Nicolas sonne les heures, et les deux petites cloches sonnent les quarts d'heure.
Et les petites ont le droit aussi à des noms de baptême ou est-ce que...
Non. Enfin, du moins, je ne les connais pas.
Il y a une taille critique. Le carillon de la cathédrale Saint-Étienne, de quand date-t-il? Vous disiez donc qu'il est muet depuis 1964, c'est ça? Il a été créé quand?
Alors, il a été construit par la fonderie Vinel en 1922. Et il est constitué de 17 cloches à l'origine, qui étaient toutes équipées au début pour sonner manuellement. Donc il y a encore dans la chambre inférieure de la chambre des cloches le clavier qui permettait donc soit de sonner avec des touches plates, soit avec un pédalier. Aujourd'hui, toutes les cloches du clocher sont électrifiées et elles fonctionnent donc avec de façon électronique depuis la sacristie. Voilà.
Mais vous avez quand même trouvé un carillonneur qui viendra de temps en temps vous jouer manuellement du carillon à la cathédrale de Saint-Étienne.
Alors,
ou,
pour
ou
revenir
pas
à l'histoire de Saint-Étienne, de l'association des amis de Saint-Étienne, nous continuons, nous, nous occuper de l'ensemble campanaire, puisque c'est l'association qui gère la maintenance du clocher de la cathédrale.
D'accord, mais ma question c'était, est-ce que vous avez un carillonneur maison ?
Alors, nous n'avons pas de carillonneur maison. Mais nous avons donc M. Laporte qui est notre technicien campanaire et qui fait partie de la société Baudet. Aujourd'hui, donc, il était tout à fait logique que, du fait de notre attachement à ce clocher, on remette en œuvre donc ce carillon muet depuis 1962.
Eh ben, bravo. Alain Jouffray, est-ce que ça fait partie du combat, Alain Jouffray et Jean-Marc Espitalier, que de non seulement de soutenir la restauration de tous ces carillons, mais aussi de perpétuer la tradition des carillonneurs. Alain Jouffray, pour commencer.
Vous savez, quand on étudie, mais comme dans beaucoup de domaines scientifiques, quand on étudie l'art campanaire, on étudie trois hommes, en fait. Un homme seul, mais qui réunit trois hommes. Il y a l'homme qui fabrique, donc qui fabrique les cloches, il y a l'homme qui joue la cloche, et puis il y a peut-être le plus important, l'homme qui entend ou qui écoute les cloches sonner. Et en effet, s'il suffisait de restaurer un carillon pour qu'il reste silencieux, ça n'aurait guère d'intérêt. Parce que la force de l'art campanaire, c'est d'être un patrimoine vivant. Et il faut vraiment féliciter toutes ces organisations, toutes ces associations, toutes ces individualités qui se battent, mais qui se battent avec une passion farouche pour que, justement, ce patrimoine sonore, ce patrimoine vivant continue à perpétuer nos cultures.
Jean-Marc Espitalier, oui. Est-ce que c'est un combat de continuer à être un carillonneur ? Il y a même des écoles dans le sud-ouest où on peut apprendre que les rares écoles de carillonneurs sont en partie dans le sud-ouest, non ?
Oui, enfin, bien sûr, il y en a dans le nord, mais ici dans le sud-ouest...
Il y a des sections même au conservatoire, c'est ça ?
Sections au conservatoire, alors à Pamiers, où la présidente de l'association Carillon en Pays d'Oc œuvre et directrice et enseigne. Et il y a une autre école, il y a plusieurs petites écoles, jusque dans nos petits villages où il y a des écoles de musique locales, où il y a des claviers manuels de bois, donc à touche en bois, des claviers dits d'études, comme à Saint-Léon, et des claviers d'études, il y en a un peu partout à Castres, enfin bon. Il faut apprendre à jouer sur le clavier d'études avant d'aller à l'instrument lui-même, se présenter sous la chambre des cloches et jouer. Avant de faire des fausses notes et de...
Vous-même, vous avez appris comment, Jean-Marc Espitalier? Il y avait un carillonneur dans votre coin et vous montiez enfant au haut du clocher pour regarder comment il faisait,
comme,
c'est ça?
Ce que disait M. Jouffray, on montait sonner les Nadalets, les Angelus, les...
C'est comme ça que vous avez appris.
Mais surtout, après coup, comme je tenais l'orgue et je jouais du piano, j'ai œuvré au sein de la commune dans notre commune de 200 habitants pour avoir un carillon de 19 cloches au total. Enfin, nous sommes arrivés à 19 notes. On est parti de 4 qui existaient.
Ma question, c'est comment vous avez appris?
Comment j'ai appris, il faut savoir jouer du piano et oui. Être motivé, c'est vrai. Parce qu'il est perturbant de se retrouver devant un grand clavier de carillon manuel, en bois.
Mais c'est un carillonneur qui vous a appris. Bref, ça se transmet, en fait, c'est ça? Vous n'êtes pas monté un jour et on vous a proposé de vous exercer sur le carillon?
Et non, puisque chez moi, il n'y en avait pas autrefois.
Voilà, ça marche de maître à disciple. Okay. Jean-Yves Mélanger, vous vouliez nous dire une dernière chose avant qu'on écoute, si on a le temps, un dernier extrait à propos peut-être de samedi prochain?
Oui, parce que j'avais oublié tout à l'heure de dire que l'événement va se terminer par un concert au carillon qui sera donc donné par le père Pierre-Marie Barthès, qui est l'organiste titulaire du Grand Orgue de la cathédrale. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait... On ne joue pas sur un clavier de bois aujourd'hui. On joue donc sur un clavier électronique qui sera installé définitivement dans la grande sacristie de la cathédrale. Et les organistes, l'organiste titulaire et les adjoints du père Barthès pourront venir jouer donc régulièrement du carillon.
Voilà, on ne joue pas, en tout cas, à la cathédrale Saint-Étienne, parce qu'il y a d'autres carillons où on joue encore directement sur le clavier. Hein.
Oui, bien sûr.
Ouais. Alors, pour finir, on rappelle donc l'inauguration, 18h, c'est samedi 21, donc bénédiction d'une plaque commémorative en présence de Monseigneur Le Gall, et le concert du carillon est à...
En suivant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inauguration laïque, on va dire, puis ensuite la bénédiction par Monseigneur Le Gall, et on terminera donc par le lancement des cloches envolées.
Donc 18h45
Ça sera 18h30 à peu près.
Allez, on écoute une dernière fois, c'est pas du carillon, c'est les fameuses cloches en volée tournante de l'église Saint-Rémy de Lagarde dans le Lauragais. Voilà les cloches qui, même les cloches, ont du caractère dans le sud-ouest. Merci beaucoup à tous d'être venus ce matin au micro de Vivante Église pour nous faire découvrir l'art campanaire. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.